bonjour, bienvenue à Escale 17 minutes avec Fulgence Plat au micro et Nicolas Wartman à la technique. Voilà, content de vous retrouver. Faites escale chez nous ici tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 18h. Et puis cette émission rediffusée lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et samedi à 5h du matin. Que c'est beau, hein, pour les couche-tard et les lève-tôt, pourquoi pas, parce qu'ils se lèvent très tôt, qui aiment écouter de la radio. Et puis voilà, première partie d'émission, j'ai quelques sujets pour vous. Et bien ensuite, en deuxième partie de l'émission, j'ai un nouveau livre, Pour que tu mènes un cœur. Mène, c'est M-E, accent grave, M-E-S. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Penser nos identités au prisme des mènes numériques, sous la direction de Began Bédard, que je vais recevoir, et de Stéphane Girard, collaboration. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ça. Toute une liste. Vous allez en savoir plus en deuxième partie d'émission. Restez à l'écoute. Et tout de suite, on part en musique. Avec qui? Avec Mississippi Children Choir. I am blessed.
Is anybody in here blessed? I said, is anybody in here blessed? Well, this is my personal testimony. I'm blessed.
World to know,
baby.
I'm gonna tell it.
Glorious. Mississippi Children Choir, I'm Blessed. Ouais, ça fait du bien. Voilà, c'est le grand soir aujourd'hui. Il y a Sylvain Ménard qui danse Rhapsody au studio théâtre Édifice Wilder du 22 au... Aujourd'hui, c'est le 22, je ne me trompe pas de date, au 26 février. Voilà, à 20h. C'est situé où, là, au 1435 rue de Bleury, à Montréal. Disponible en web diffusion aussi en direct, bien sûr, les 25 et les 26, à 20h. Alors, là, je vous le dis, ce soir, là, les organisateurs, les responsables danse-danse sont très contents. Donc, ils sont très contents de retrouver les danseurs sur scène comme ça. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, les amoureux de la danse. Et ceux qui ne sont pas amoureux de la danse, qui aimeraient découvrir la danse, pourquoi ne pas faire le déplacement pour aller voir ces grands danseurs. Une vingtaine de danseurs qui vont monter sur scène pour relancer la danse après 2 mois de fermeture. Il était temps. Il était temps que ça se passe maintenant. Voilà. Oui, je pense bien que ça pourra porter bonheur aux autres qui vont arriver après. Ça dit peut-être qu'il n'y aura plus de fermeture comme ça... On ne sait pas. Bon, là, bon, ben, je ne suis pas en train de prédire quoi que ce soit. Donc, la salle studio théâtre édifice studio théâtre édifice Wilder. D'ailleurs, on va recevoir ces mêmes danseurs qui vont vous faire donner la chair de poule. Voilà, allez-y. Pour ceux qui ne sont pas, je vous le dis, je pense pas que ceux qui n'ont pas encore pris le billet là pour ce soir vont avoir de la place, mais les web diffusions sont là, n'hésitez pas, faites le saut là-bas sur le site de Danse Danse, vous allez booker, vous allez réserver votre place pour aller découvrir ces 20 danseurs avec Sylvain Ménard qui danse Rhapsody. Voilà, je donne encore l'adresse, c'est 1435 rue de Bleury, studio théâtre, édifice Wilder. Voilà, disponible en web diffusion et en direct le 25 et le 26. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 26 février à 20h. Alors, il y a quelque chose que je voulais aborder un peu rapidement. Normalement, j'en ai pas parlé jusqu'à présent à Escale 17-18. C'est cette histoire de l'autre côté de l'Europe, en Europe de l'Est, direction Russie. La Russie qui est en train de donner du fil à retordre au reste du monde occidental. Il faut le dire. Ouais. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour... dire que je suis le plus fort ou pas, mon avis ne compte pas de toutes les façons. Alors, pourquoi est-ce que la Russie se considère invulnérable aux sanctions? C'est ça. Poutine, il a tout préparé. Hein? Ouais. Ouais, y a chute du cours du rouble, sur fond de vives tensions avec l'Ukraine, on le sait. Mais après le discours va-t-en-guerre, là, qu'on a entendu hier, ben, j'ai écouté. C'était vraiment... Et des sous-titres, bien sûr. Les Occidentaux se disent prêts à adopter des sanctions économiques contre ce pays qu'est la Russie dans les prochaines heures, bien sûr. Mais la menace semble sans effet, d'ailleurs, sur le chef du Kremlin. Il a préparé son pays à cette éventualité. Oui, il n'est pas aussi bête que ça. Avant de prendre ce genre de décision, de reconnaître deux parties du pays dans le Donbass là-bas, et puis dit que je reconnais l'indépendance de ces deux peuples. Alors, c'est qu'il s'est préparé en cas de sanctions économiques. Il sait où aller demander de l'aide, se tourner vers la Chine. C'est ça. Donc, ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est comme ça. En gros, c'est ce que je voulais dire. Et puis, il y a l'Allemagne qui a profité de l'occasion aussi, parce qu'ils ont essayé tous, hein, Emmanuel Macron... Joe Biden, l'Allemagne, le nouveau chancelier Olaf Scholz, l'a aussi rencontré, si je me rappelle bien les images que j'ai vues. Voilà, ils ne veulent plus dépendre de ce gazoduc Nord Stream 2, oui, qu'on appelle la Pipeline 2.0, qui part de ces souterrains de la Russie en Allemagne pour fournir du gaz. Mais l'Allemagne, le nouveau chancelier Olaf Scholz a pris sa décision maintenant. Il a suspendu cette autorisation du gazoduc controversé qui relie la Russie à l'Allemagne. Donc, c'est l'une des premières sanctions après le discours de Vladimir Poutine hier soir. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Donc, je pense bien qu'il pensait que l'Allemagne allait dépendre de son gaz jusqu'à la fin du monde. Mais il y a de toutes les façons, il y a certaines précautions qui sont prises. Il y a les Américains qui sont en train de voir avec le Qatar pour savoir, parce que le Qatar, c'est un très... un très grand producteur aussi. Et même les États-Unis sont des grands producteurs de gaz. Ils sont en train de voir pour savoir effectivement qu'est-ce que les États-Unis et puis les autres pays fournisseurs de gaz, producteurs de gaz, pourraient faire pour sauver l'Europe, pour ne plus dépendre de Moscou. Et parce que c'est l'Allemagne particulièrement. Voilà. L'Allemagne qui a été longtemps critiquée par son soutien au gazoduc Nord Stream 2 rappelle que il ne peut plus. Angela Merkel avait dit que ça s'était défini comme un projet privé sans arrière-plan politique. Ah, je comprends maintenant, effectivement. Si c'est le cas, bon, ben, les Allemands vont se tourner vers d'autres fournisseurs, d'autres producteurs de gaz qui vont leur permettre de faire fonctionner l'économie allemande. Alors, Olaf, qui recevait son homologue irlandais aujourd'hui, a qualifié la décision de Vladimir Poutine de remettre l'indépendance des régions séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine d'atteinte au droit international. Si c'est comme ça, plus d'affaires, plus de business concernant le gaz entre la Russie et l'Allemagne. On va en musique avant que je ne passe à autre chose.
Le monde peut quitter le monde quand il veut partir où bon lui semble, quand il veut faire d'avril un mai, d'un mai un novembre, tout est dans la manière. Tu peux quitter le monde
Berry, tu peux partir. Oui, tu peux partir, mais pas de cette manière-là. Il y a la manière de partir. Voilà un peu de basketball, là. Harlem Globetrotters. Ah oui. Oh, il y a un concours qui est organisé par As-tu-vu.ca, là. 4 billets à gagner, d'ailleurs, pour le spectacle. 4 accès pour le meet and greet avec les joueurs, en plus. Un gagnant sera tiré au sort parmi les participants. Oui, tirage le 1er mars à midi. 1er mars à midi. Allez-y sur le site là-bas, tuvu.ca, fil culturel actualité, concours prix à gagner, Harlem Globetrotters. Ils seront ici, là. Oui, oui, oui. Il faut que j'en parle rapidement. Bon, quand tu vois, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, non, il faut que j'en parle. C'est au Centre Bell le 11 mars, et puis bon, à la Place Bell, à Laval, le 12 mars. Ouais. Billet. Ouais, evenco.ca, allez-y là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas. Harlem Globetrotters, c'est les, oui, c'est les vedettes, c'est les stars de basketball. Ce sont les, c'est les gens, c'est les jeunes d'Harlem qui ont créé ça au fait, avant de s'associer avec les stars qui sont encore en compétition ou bien qui jouent encore. Sinon, oui, beaucoup se sont, quand ils ont le temps, ils font la plupart du temps un tour du monde ou bien des petits spectacles par-ci par-là. C'est toute une chorégraphie. De basket, quoi, ça, il faut le dire. Voilà. Ça fait très longtemps, j'ai eu la chance de les voir une fois en Europe, mais c'est tout un délice, il faut le dire. Voilà, c'est du spectacle. Voilà, j'appelle ça de la chorégraphie, c'est chirurgical, tout ce qu'ils font, les petits gestes. Tu vois ça, tu dis waouh. Alors, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, c'est les grands du basket. Oui, c'est les grands, grands, grands du basket qui ont formé ce club-là, Harlem Globetrotters. Ils font le tour du monde. Hein? Donc le 11 mars au Centre Bell et le 12 mars à la Place Bell. Allez-y vous inscrire sur le site de as-tu-vu.ca. C'est comme ça. As-tu-vu, A-T-U-V-U.ca. Ils font un concours là-bas pour donner des 4 billets pour le spectacle. Et puis 4 accès pour le meet and greet. C'est-à-dire aller rencontrer les joueurs, les stars que vous aimeriez rencontrer. Bon, il ne faut pas... Pour être chanceux pour les rencontrer, ces gens, à moins qu'on vive aux États-Unis, qu'on habite non loin d'eux, là, ça c'est autre chose. Sinon, ou bien aller dans les stades pour pouvoir les voir, mais les approcher comme ça, meet and greet, aller les rencontrer, leur serrer les mains. Bon, c'est pas tout le monde qui a cette opportunité. Profitez-en donc, le mondialement célèbre Harlem Globetrotters amène leur tournée Sprint Game. C'est la tournée Sprint Game à Montréal et à Laval. N'hésitez pas, je vais revenir sur ça d'ailleurs, de toutes les façons. Donc, ça va être le 11 mars au Centre Bell et le 12 mars à la Place Bell. Evenco. Eh bien, evenco.ca. C'est parti. Un peu de littérature, un peu de nouveauté en littérature, bien sûr. Et les voix féminines à redécouvrir. Nouveauté littéraire. Librairie depuis le 20 février. Depuis aujourd'hui, hein, tous ces livres dont je vais vous parler, là, si j'arrive à... J'ai le temps qui me permet de parler au moins de 2-3 livres. Voilà. Le fil du vivant. Édition Alto, Delsa, Pépin. Ce sont des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Québec, arrimées à ses deux enfants. Yona est déchirée entre un désir maternel de fusion et le besoin de s'évader dans le monde de son amoureux et le souvenir de ses débordements de jeunesse. Mais bientôt, la réalité la rattrape. Donc, des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Québec. Voilà, c'est ça. Bientôt, la réalité la rattrape. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, il amènera sa fille. Montréal est sur le point d'être inondé et Nils a tout prévu. Il amènera sa fille à l'abri dans le nord, au somptueux manoir de son clan. Avec quelques proches, il s'installe loin de la civilisation, isolé dans une forêt, noyé en pleine mutation. Et au fur et à mesure que les réserves de nourriture diminuent et que la province s'enfonce dans le chaos, la tension monte dans la demeure au luxe désormais obsolète. C'est en librairie depuis aujourd'hui, 22 février. Si vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas, faites un petit crochet, un petit saut là-bas dans votre librairie de quartier pour aller vous procurer Le fil du vivant, audition Alto et aux éditions Alto d'Elsa Pépin. Rapidement, j'ai encore du temps, je peux parler d'une deuxième, d'une autre nouveauté. Voilà, cet auteur, ouais, je parle rapidement de l'auteur avant de passer au titre suivant. Oui. Elle est née à Montréal, c'est de Montréal, elle est journaliste et éditrice, elle écrit depuis 10 ans. Des livres qui s'intéressent au corps, à la filiation, au lien tissé entre soi et le monde. C'est intéressant. Elsa Pépin. Traité de paix pour les femmes. Allez, Québec-Amérique de Geneviève Morin.
Oui.
Rédige son mémoire de maîtrise sur Alien, comme Ripley. Elle se découvre aliénée et devra se battre comme une menace qui vient de l'extérieur et de l'intérieur, car il faut s'affranchir de celui qui dit conne, pute, autant que de ses propres patterns, bien sûr. Tu peux pas partir, ton chat est en haut, elle m'aime pas, tu le sais, tu peux pas nous laisser juste elle et moi. Je m'excuse, je t'aime, tu peux pas partir, arrête, qu'est-ce qui va m'arriver si tu pars? Je suis même pas capable de mettre un cadran. Tu peux pas partir, je peux pas m'en sortir sans toi, t'es la femme de ma vie. Je ne sais plus si c'est la pitié ou l'amour qui gère ma tête, mais je finis par remonter, ranger la valise sous le lit. Ouais. C'est déjà en librairie, depuis ce matin, depuis aujourd'hui, là. Allez-y, vous procurez ça, c'est des nouveautés, hein, il faut que j'en parle. Hein. Je deviens Morin, traité de paix pour les femmes aliens. Québec-Amérique, la grande maison d'édition. Voilà. On me fait signe là-bas que j'ai passé du temps rapidement, mais je peux parler de la dernière découverte, de la nouvelle nouveauté aussi. De la nouveauté, oh Dieu, quel pléonasme. Jardin Radio, le Cartanier, voilà, de Charlotte Biron. Cartani, c'est la maison d'édition. Le corps est en convalescence, improductif, à l'écart du monde. Du fond de la pièce s'échappent des murmures, bientôt des phrases. Ce ne sont pas des gens, ce sont des voix à la radio. Pendant des jours, des mois, des années, ces voix trompent la solitude et la douleur. Ouais. Et Charlotte Biron est née à Montréal aussi. Hein. Titulaire d'un doctorat en études littéraires décerné conjointement par l'Université Laval et l'Université Montpellier III. Ouais. Allez-y. Rapidement, vous procurez une copie tout nouveau, tout neuf, tout frais, déjà en librairie depuis ce matin, 22 février 2022. On termine en beauté, en musique, avec Blair Bryan, Secret Agent. Oui, Blair Bryan, Secret Agent. Voilà, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. La première pièce musicale, on reçoit Mégane Bédard qui va nous parler. Elle est doctorante en études sémiotiques. Vous allez savoir ce que c'est. Et je suis du livre « Pourquoi tu m'aimes encore ?» Penser nos identités au prisme des mènes numériques. Et juste après la petite pièce, la première pièce musicale, elle sera avec nous au téléphone pour parler de ce livre-là. C'était sous sa direction. Il y a plusieurs gens qui sont associés à ça. Allez, à tout de suite. N'allez pas loin.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris. Que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce éterne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement...
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment, et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Porte-toi bien, ma chérie. À bientôt, Charles.
Ça va, s'il te plaît.
Au revoir. Merci pour le cadeau.
Tu vas manger. Vas-y, viens, je t'attends.
Salut, on a une voiture.
On arrive. Bisous.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot mercredi.
Rends-le-vite, s'il te plaît. J'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi. Je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour toi.
Et c'est passe, mon ref.
D'abord, on va à la séance de 19h30 et après, on mange.
Ma sœur, t'es où?
Papa, on peut manger devant la télé ce soir?
Oui, là vous avez entendu, vous avez reconnu la voix de Grand Corps Malade avec la complicité de Leïla Bekti, le sens de la famille. Voilà, tout le monde avait la parole, les enfants, tout ça, papa, tout ça, les enfants qui appelaient leur papa. Alors notre invité déjà au bout du fil, Mégane Bédard, qui est doctorante en études sémiotiques ou bien sémiologiques, comme vous voulez, elle va nous parler du tout nouveau livre « Pour que tu m'aimes encore », c'est pas aimé au AIMES, là, si tu m'aimes, on parle des, en anglais on dit Internet Meme, vous allez, elle va nous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Penser nos identités au prisme des mèmes numériques. Alors, cette dame qui est au bout du fil, qui va nous amener dans ce monde numérique, elle est consommatrice infatigable de mèmes, doctorante en études sémiotiques à l'Université du Québec à Montréal et chercheuse spécialisée en culture populaire. Dans le cadre de ses travaux d'ailleurs, elle s'intéresse aux phénomène de marchandisation de l'imaginaire, notamment dans son ouvrage Xénomorphes, oui, un lien ou les mutations d'une franchise aux éditions Ta Mère, bien sûr, 2020, ainsi qu'aux enjeux identitaires et méthodologiques des études sur les communautés de femmes. Voilà, je ne sais pas comment elle a pu réussir à motiver ou bien à réunir, à regrouper plus d'une dizaine de personnes pour prendre part au même, à ce livre. Là, elle va nous le dire tout de suite. Bonjour Mégane Bédard.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Oh là, je vais bien, merci. Content de vous avoir. Comment est-ce que vous avez réussi à réunir plus d'une dizaine de personnes pour vous accompagner dans votre monde de même?
ça peut paraître surprenant pour les gens qui ne consomment pas eux-mêmes.
Oui.
Mais c'est ça, on a fait un appel, en fait, aux spécialistes chercheurs des universités de la francophonie.
Oui.
Ils ont répondu à la thèse, justement. Donc, c'est comme ça qu'on a réuni nos collaborateurs, collaboratrices
pour l'ouvrage. Ah oui, quand j'ai commencé à parcourir la liste des noms, je me suis dit, mais comment elle a fait pour réunir toutes ces personnes-là?
On les a appelés, ils ont répondu. Mais c'est ça, l'objectif de la thèse, c'était pour avoir des perspectives différentes, donc autant de la philosophie, sémiologie, études culturelles et compagnie. Là.
Oh, génial. Bravo à vous et à toutes ces personnes qui ont dit oui à votre Merci. Appel. Voilà, à votre appel. Et puis, bon, ils ont pris pas. Stéphane Girard, Jean-Michel Berthiaume, Thibaut Vaillancourt, Justine Simon, Alexandre Martin, Patrick Couture, Alain Deneville, bien sûr, Simon Fitzbé et Mireille Lalancette, c'est bien ça, hein? Elsa oui, Novely et puis Mégane Bédard, qui est sous la direction de Mégane et de Stéphane Girard. Alors, êtes-vous à la première édition le premier livre concernant le même que vous faites? Avec toutes ces personnes-là ensemble, je veux dire.
Oui, c'est ça. Mais en fait, notre objectif, c'était de faire le premier ouvrage francophone sur le sujet. Parce que dans le milieu de la recherche anglophone, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés au sujet. Là.
Oui.
Ça devient de plus en plus... C'est dans la mire de tout le monde, autant des chercheurs à l'université, mais que des publicitaires ou des gens qui s'intéressent à l'actualité. Là.
Oui.
Donc, on a réalisé en fait que dans la francophonie, il n'y avait personne qui s'était intéressé strictement à ce sujet-là.
Oui.
Donc, on a voulu un peu défricher la discipline elle-même, là, de commencer à réfléchir ensemble sur le sujet.
OK. Là. D'abord, oui. Avant de continuer de rentrer dans les feux du fichier, qu'est-ce que c'est que la sémio? La sémiologie, c'est quoi?
Donc, la sémiologie ou la sémiotique?
Ou la sémiotique, voilà. C'est deux mots synonymes.
Il y en a un qui est américain, un qui vient de la France. Mm. C'est une discipline théorique qui s'intéresse à la manière dont on crée du sens et on interprète le sens. Donc, ça peut paraître un peu abstrait comme ça.
Oui.
Mais, par exemple, si on étudie les mêmes, ce qui nous intéresse quand on étudie les mêmes d'une approche sémiologique, c'est comment ils sont construits, de quoi ils ont l'air, mais aussi quel sens on peut lire à travers ça, puis quel sens on va créer dans une communauté à partir de ça. Donc,
oui.
C'est très ténu, c'est très pointu, mais au final, ça touche à peu près tout ce qu'on fait. Donc, si je vous parle comme ça, je vous dis des mots, mes mots signifient quelque chose pour vous. Donc, nous, ce qui nous intéresse quand on étudie la sémiologie, c'est ce processus de signification-là, puis le processus d'interprétation, donc comment vous interprétez mes mots.
Oui.
Donc, voilà.
Oui, c'est parce que vous utilisez beaucoup les sémiotiques, c'est pour ça que vous avez fait un doctorat.
oui, c'est ça. On s'en parle dans un doctorat sans s'intéresser à ces phénomènes-là. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, comme vous l'avez vu dans ma biographie, c'est vraiment les phénomènes de communautés populaires.
Oui.
Les communautés en ligne, évidemment avec les mêmes, mais aussi tout ce qui a rapport avec les objets très populaires, donc Alien ou toutes les grandes franchises culturelles comme ça, mais d'une perspective sémiotique. Donc, comment ces franchises-là ou ces phénomènes-là créent du sens ensemble, puis comment ça s'interprète par après. Là. Donc, ça a un impact, je veux pas, sur la communauté en général. Donc,
oui.
ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir c'est quoi cet impact-là, puis s'il peut avoir justement des choses qu'on peut améliorer, des choses à critiquer. Voilà, pas mal ça.
Est-ce que vous êtes satisfaite du travail avec vos collègues?
Très satisfaite. Donc, c'est sûr que c'est un travail de défrichage pour le livre, pour que tu m'aimes encore. Là. Donc, on est un peu dans les on y va à tâtons un peu. Là. On est encore dans les débuts, mais c'est évidemment, ça nous a
plu
intellectuellement.
J'adore votre livre. Là. J'adore. Vous m'avez fait découvrir des choses. Là. J'ai dit avec toute l'équipe, là, je vous dis bravo. Moi, c'est vrai. C'est un phénomène socioculturel protéiforme, les mêmes tels que nous les déployons dans le cadre de nos échanges en ligne, se démultiplient, voilà, se disséminent et se réinventent au point de caractériser ce qu'il est désormais convenu d'appeler notre condition numérique. C'est beau, ça.
Ouais. Ah, merci. Est-ce c'est que... mon collègue.
Voilà. Ouais. Est-ce que chacun de nous peut créer des mèmes?
Oui, définitivement. Donc, c'est sûr qu'il faut être bien familiarisé avec le phénomène. Je pense que c'est pas tout le monde non plus qui savent c'est quoi un mème.
Je pose la question, Mégane, je pose la question parce qu'au début, c'était les geeks de l'informatique qui se faisaient des choses comme ça.
Ah, oui, exactement.
Voilà.
Mais c'est ça, mais le phénomène qui est intéressant avec les mèmes, c'est que initialement, c'est vrai que c'était quand même une petite portion des gens qui en faisaient et qui les partageaient.
Oui.
Mais au fur et à mesure que les médias sociaux se développent, les outils technologiques avec eux se sont développés. Puis c'est de plus en plus facile d'en faire nous-mêmes de façon, c'est ça, un peu sur Internet. On a plein de sites maintenant qui peuvent nous donner ces outils-là pour les faire.
Oui.
Puis ce qui est arrivé avec ça dans le même moment, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une accélération de la création et de la dissémination des mèmes qui est quasiment exponentielle. Là. Donc, ça fait évoluer aussi cette culture-là. Puis dans les 10 dernières années, quand on observe comment les mèmes en 2012, par exemple, versus 2022, ça n'a plus rien à voir, mais c'est justement grâce à l'accessibilité de ces outils technologiques-là.
Oui.
Puis avec des sites comme TikTok, maintenant, on n'a plus nécessairement juste des...
Et TikTok a battu tous les records, d'ailleurs, de
réseaux sociaux. Mais avant, on avait seulement des mèmes, c'était des images, c'était quelque chose de très statique. Souvent, une image avec un texte, ça s'arrêtait là. Mais maintenant, avec TikTok, les outils de montage audiovisuel deviennent accessibles à n'importe qui. C'est une révolution dans ce sens-là, dans la création, dans l'évolution culturelle de l'Internet, définitivement.
C'est ça. Comment vous pouvez expliquer ça d'une manière banale pour que ceux qui nous écoutent, même s'ils les utilisent sans savoir comment ça s'appelle, comment vous pouvez leur expliquer pour qu'ils comprennent sans images? On n'est pas à la télé pour leur montrer des images, on a la radio. Voilà. Comment vous pouvez expliquer d'une manière banale
Ben l'analogie que j'aime utiliser, c'est un mème, c'est un peu comme une inside joke ou une blague de connivence sur Internet.
Oui.
Donc il faut être initié à la blague pour pouvoir bien la comprendre. C'est pour ça que parfois on peut voir des images sur Internet ou des photos ou des phénomènes.
Oui.
Et si on n'est pas initié à justement au contenu, à toute la culture mémétique, là, comme on peut l'appeler, ça peut paraître un peu absurde ou opaque ou ça n'a pas vraiment de sens.
C'est ça.
Alors que c'est ça. Mais ça peut prendre toutes sortes de formes. Donc ça peut être une image qui reste toujours la même, puis on change la phrase. Ça peut être une phrase qui se répète sur différentes images.
Oui.
Ça peut être une vidéo, un défi qu'on se lance aussi sur TikTok qui était très fort là, sur les défis. Là, donc tout le monde participe au même phénomène, mais ça peut être considéré comme un mème.
Oui.
Parce que l'essentiel du mème, c'est que c'est un objet qui est toujours constant, donc qui va être reconnaissable, que ce soit l'image, la syntaxe d'une phrase ou un défi ou une chanson même, ou une danse.
Oui.
Mais il va toujours avoir quelque chose de nouveau ou de différent où on se l'approprie nous-mêmes, puis après on le repartage. Donc comme ça, le mème va toujours évoluer, il va s'adapter aussi. C'est ce qui fait qu'il
évolue, il s'adapte.
Oui, exactement.
OK, on fait une petite pause musicale. Oui, avec le groupe Toto Africa.
Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to
say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Africa du groupe Toto. Oui, nous sommes, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes toujours avec notre invitée, Mégane Béda, doctorante en études sémiotiques, qui nous parle du livre Pour que tu mènes encore et penser nos identités au prisme des mèmes numériques. Alors, Mégane, cette pièce qu'on vient d'écouter là, au chapitre 5 de Patrick Couture. Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît.
Oui, c'est ça. Ben, notre collaborateur Patrick Couture a écrit justement un chapitre de livre sur la chanson.
Oui.
À de Toto, mais comment elle est devenue un mème, plus spécifiquement sur comment cette chanson-là a été traitée comme un mème.
J'étais surpris de lire ça. J'ai dit, mais c'est pas une chanson qui devient un mème.
Oui.
Allez-y, on vous écoute.
La blague elle-même, c'était plus de considérer, c'est ça, Africa de Toto comme étant la meilleure chanson qui ait jamais existé. C'est comme une chanson enlevante, là, on va s'entendre. Là,
oui.
C'est ça, c'était pas la chanson la plus... Mais c'est ça, la blague sur Internet, c'était ça. Puis Patrick, justement, il raconte comment sa petite blague, justement, entre ses amis... Il disait justement cette blague-là sans savoir que c'était un mème sur Internet. C'était comme un peu... Il avait trouvé son écho sur des groupes Facebook ou dans des pages Internet.
Oui, il était surpris de trouver... Oui, qu'il y avait même...
C'est ça, quelque chose de très anecdotique, mais qui est très révélateur aussi sur un peu comment on... on vit dans une espèce de culture en commun sans savoir justement qu'il y a d'autres personnes sur Internet qui ont la même blague que nous. Puis à ce moment-là, on découvre c'est ça, toute une communauté d'intérêts où c'est ça, on a un peu le même sens de l'humour à laquelle maintenant on peut participer sur Internet sans même savoir que ça existait avant. Là.
Oui. Mm-hmm. et quand j'ai découvert la photo de la Meghan, docteur, you have 1 hour to live. Mais, et puis il a répondu, me ok. C'est-à-dire, il devait jouer la pièce Toto, Afrique, elle a 1 heure de temps.
Oui, sur un album, c'est ça. Toutes les pièces étaient Africa de Toto. Là, puis c'est comme, mais la troisième chanson, c'est la meilleure, mais c'est toute la même piste.
C'est ça. est-ce qu'on peut prendre des cours de mème?
Pardon?
Est-ce qu'on peut s'initier au même? Est-ce qu'on peut prendre des cours?
Je sais pas s'il y a des cours. Le meilleur cours, je pense, qu'on peut suivre pour les mêmes, c'est d'aller sur Internet puis d'en regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il doit y avoir des vidéos sur YouTube, là.
Oui, on peut en regarder sur YouTube, mais aller sur Instagram.
Sur des pages dédiées à ça, voilà, Instagram et autres.
On peut trouver des pages d'intérêt, qui justement des intérêts personnels ou des pages de mêmes qui s'intéressent à ces mêmes intérêts-là. On voit qu'il y en a à peu près, on voit dans le livre justement qu'il y en a pour tous les goûts, là, que ce soit l'astrologie, la philosophie.
C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui, moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais j'ai l'impression que je vis sur une autre planète, moi.
C'est ça, mais c'est un peu en s'intéressant au phénomène, c'est là qu'on réalise justement à quel point on vit dans notre petite bulle sur Internet. Donc, il peut se passer des choses qui touchent un grand nombre de personnes, mais qu'on n'en a jamais entendu parler aussi parce que ça fait pas partie de nos intérêts personnels ou de nos intérêts en ligne surtout.
Oui.
Puis, c'est ça, on a un chapitre du livre qui s'intéresse justement à la question des algorithmes, puis à cette question-là des bulles, de comment un peu ça, on finit par se faire séparer dans nos bulles respectives en fonction de ces intérêts-là, qui fait en sorte qu'on peut, c'est ça, on peut vivre notre vie comme si de rien n'était, sans savoir même qu'il y a un phénomène comme ça qui s'ébat sur le web. Là.
Oui, 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 oui. Wow. Les mêmes du futur.
Le même titre.
Oui, parlez-nous un peu de ça pour terminer.
Oui, c'est ça. C'est sûr que. Est-ce que vous voulez.
Ou bien, qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez le futur des mèmes?
Je crois que c'est imprévisible. On peut commencer à justement faire des théories pour voir où est-ce que ça s'en va, parce que depuis les dernières années, surtout les 5 dernières années, je dirais, il y a une monétisation grandissante sur le web.
Oui.
De toutes sortes de contenus, que ce soit des illustrations, des vidéos sur YouTube, Twitch et compagnie.
Oui.
Donc, il y a une tendance à la monétisation, puis on voit que même si initialement les mèmes étaient quelque chose qui semblait un peu échapper à ce phénomène-là, on finit par être un peu rattrapé par la machine capitaliste, si on veut, là. Puis à devenir de plus en plus monétisé. Des plateformes comme TikTok nécessairement contribuent à cette monétisation-là où les gens peuvent créer des contenus mémétiques et autres,
oui.
Aussi avec les mêmes, puis se faire de l'argent avec, donc avec des retours en fonction du nombre de vues. Puis on voit que ces contenus culturels-là finissent justement par monétiser. Est-ce que ça va nécessairement, ça va avoir un impact sur la façon dont on fait des mèmes?
Oui.
Si un des impacts qu'on peut déjà prévoir ou on peut faire des hypothèses à propos de ça serait qu'il y aurait une scission, comme on a vu souvent, entre une certaine culture marchande. Là. Donc, quand on fait des études culturelles, on réalise qu'il y a quand même une tendance où il y a un élément contre-culturel, que ce soit la mode hippie ou la mode punk ou peu importe, mais toujours paraître coopté par justement les grandes corporations. Puis il y a une adaptation graduelle qui se fait où la tendance contre-culturelle s'adapte pour devenir de plus en plus justement subversive.
Okay.
Donc peut-être que les mêmes vont devenir ça. Ça pourrait être une avenue.
Oui.
Peut-être qu'on voit que justement c'est devenu de plus en plus démocratisé et populaire. Peut-être que ça aussi, ça va avoir un impact sur comment ça s'en ligne les années à venir.
C'est ça.
Mais c'est ça. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut observer qui vont nécessairement justement pousser les mêmes à devenir.
Un dernier mot.
De plus en plus diversifié.
Pour les dernières 30 secondes que nous reste, Meghan,
oui.
Un dernier mot à nos auditeurs. Pour ceux qui veulent s'intéresser beaucoup plus en profondeur, comme vous. Un dernier mot.
Si ça vous intéresse, allez justement, je vous encourage à aller sur des sites, vos médias sociaux préférés, puis aller chercher des mèmes pour aller vous instruire, si on veut, ou pour vous divertir.
Mm-hmm. Est-ce qu'on pourra avoir numéro 2 pour que tu m'aimes encore?
C'est peut-être en préparation.
En préparation.
On va garantir encore, mais on y pense.
J'ai hâte. J'adore votre livre. Vous et vos collaborateurs, vous aimez. Merci beaucoup à vous. Mégane Bédard, doctorante en études sémiotiques, pour que tu m'aimes encore, M-E, accent grave, M-E-S, bien sûr, c'est pas M-E-A-I-E-M-S, non. Pensez nos identités au prisme des mèmes scientifiques aux éditions, somme toute. Merci beaucoup à vous et au plaisir de vous réunir avec un autre numéro.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Madagascar All Stars à la co. Merci beaucoup à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Et on dit merci à notre invité qui vient de nous quitter, Mégane Bédard, pour nous parler de Pour que tu m'aimes encore et penser nos identités au prisme des mèmes numériques sous la direction de Mégane Bédard et de Stéphane Girard. Voilà, merci à votre fidélité, merci de votre fidélité, chère auditeur éditrice. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. N'oubliez pas, cette émission est rediffusée lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi, samedi à 5h du matin pour les couches tard et les lève tôt. Nicolas, à demain. Et je vous dis ciao.